des livres plein les oreilles. Bonjour tout le monde, Clotilde Seille en votre compagnie à Canalem, à CKVL ou encore en balado. Ah, devenir médecin, combien d'hommes et de femmes en ont rêvé, ont travaillé avec acharnement pour y parvenir au prix de jours et de nuits de travaux et ce pendant des années. Eh bien, la femme que je reçois aujourd'hui a non seulement ce mérite, mais aussi celui d'avoir mis son talent, ses capacités et son enthousiasme à toute épreuve au service des plus négligés, des plus désarmés, face à la maladie notamment. Elle a parcouru des milliers de kilomètres, du nord au sud, du grand nord canadien aux pays les plus éloignés d'Afrique et d'Asie, en passant par Haïti, la malmenée. Elle a confronté Ebola, la choléra, la lèpre, mais c'est finalement la COVID-19 qui va la rattraper, chez elle, dans son propre pays. Danielle Perrault, puisqu'il s'agit d'elle, nous offre un vibrant témoignage de ce qu'est sa vie de médecin de brousse et de tragédie. Le livre « Soigné du Nord au Sud » est sorti simultanément en librairie et en audio il y a maintenant quelques jours. En audio, c'est sur le catalogue Vues et Voix. C'est d'ailleurs elle qui a lu son propre bouquin. Ne manquez pas son entrevue, c'est dans quelques secondes. Également à l'émission, j'ai pensé combler les amoureux de saga fantastique, en leur présentant une nouvelle série produite chez Audiolib. Et puis, suite à un rêve doublé d'une insomnie que j'ai occupé à découvrir un documentaire remarquable sur la femme, l'auteur et l'insoumise que fut Colette, eh bien j'ai décidé d'aller voir, pour moi mais aussi beaucoup pour vous, quelles œuvres littéraires on retrouve de cet auteur insensé qu'est Colette en livre audio.
Mary, une sage-femme inuite, met au monde un nouveau membre de la communauté. Mais trois jours plus tard, cette belle petite fille, cinquième enfant de sa maman de 28 ans, ne va pas bien. Elle refuse de téter et respire trop rapidement. Son état se détériore au point où on doit l'intuber. Je décide de la transférer à Montréal, à 1644 km au sud. Je contacte le centre EVAC, Évacuation Aéromédicale du Québec, qui juge la situation prioritaire. Un avion hôpital, un Challenger, est alors mobilisé depuis Québec avec, à son bord, un urgentiste et une infirmière. Cependant, on me dit « ce n'est pas certain qu'on puisse se rendre ». Je regarde dehors pour chercher les indices d'un début de tempête, la danse des bourrées de neige au sol ou un déplacement rapide des flocons à l'horizontale. Rien de tout ça, c'est le calme plat. Mais on prévoit dans les prochaines heures un blizzard qui pourrait nous isoler pendant des heures, voire des jours. Alors, pas d'évacuation médicale, pas de ravitaillement à l'épicerie ou à la pharmacie, annulation des départs comme des arrivées. Comment pourrais-je offrir des soins intensifs à ce nouveau-né pendant 10 jours, étant donné le manque d'équipements, de tests de laboratoire et de médicaments spécifiques pour soigner un enfant aussi malade? Mais revirement de situation, le Challenger tente sa chance pour venir chercher le bébé avant que les vents ne condamnent la piste. À 30 minutes de son arrivée, l'ambulance quitte l'hôpital, emportant la petite patiente vers l'aéroport. À ses côtés, un infirmier qui, faute de respirateur, doit la ventiler manuellement. Comme je suis soulagée de son départ. Sauf que 10 minutes plus tard, la voix de l'infirmier éclate sur le transmetteur radio. « On a pris le clou !» Dans le franc-parler saguenéen, cela signifie que les ambulanciers ont quitté la route et sont dans le fossé. Dans la nuit noire, le chauffeur de l'ambulance, malgré son expérience, a perdu de vue la route balayée par les vents. Il a basculé sur le côté. Je n'ose pas imaginer l'infirmier essayant de stabiliser l'enfant dans cette position précaire. Les pompiers finissent par arriver pour les sortir du pétrin, mais j'apprends au même moment l'annulation du Challenger. On n'y voit plus rien. Le blizzard a gagné.
Si vous aviez vu, Danielle, les yeux de Jean-Sébastien, mon ami technicien qui me dit « ouais, il faut avoir les cœurs solides ». Ben, j'ai dit « attends, parce que là, tu n'as rien lu, ça, ce n'est que le début du bouquin ». Bonjour, Danielle Perrault.
Bonjour. Oui, bonjour. Ah, mon Dieu, je ne peux pas croire. Ah, c'est drôle de retourner en arrière comme ça, ah. Là, c'est comme si j'y étais.
Danielle Perrault, alors oui, je vous ai présenté. Vous êtes celle qui avait à la fois fondé une famille, parce que c'est pas évident, ça fait partie d'une réalité féminine, élever des enfants, mais également donc parcouru la terre entière pour aller à la rencontre de ces peuples-là, disséminés partout sur le monde, aux prises avec des situations historiques, météorologiques ou pandémiques absolument épouvantable. On en vient comment, Danielle Perrault, à choisir cet axe-là de vie? Médecin, c'était pas suffisant?
Non. Oui, mais je pense que ça a commencé quand même avec ce gène de l'exploratrice. Toute petite, je voulais partir à l'étranger. J'avais 9 ans. Mon père s'est fait offrir de partir enseigner au Rwanda en pharmacie et puis refusé parce que c'est pas sa personnalité, mais j'y en ai voulu pendant un an. Est-ce que j'y ai parlé pendant un an, je sais pas, mais j'étais très petite et je rêvais de la planète entière. Au secondaire, je faisais des maps mondes en papier mâché. Alors, ça a toujours été là. Maintenant, ça a d'abord été l'anthropologie pour qui a suivi un an où j'ai enseigné au Togo pour comprendre les habitudes culturelles et comment intervenir de façon plus efficace et de fil en aiguille de stage et de visite à l'intérieur de mon bac en anthropo. Ça a été médecine qui était mon avenir, il n'y avait aucun doute. Alors, comme médecin, il était clair que, en fait, je regardais personne dans ma classe qui pouvait solliciter mon amour et je n'ai regardé que le seul qui était intéressé à partir à l'étranger, que j'ai marié et très rapidement.
Allez hop, comme ça. Oui, toi, oui, je te mets le grappin dessus. Allez hop, c'est bon.
Non, mais c'est que vraiment, la vie était alignée pour des départs à l'étranger, ça c'était clair. Mmh. Et donc, pendant un an, on s'est retrouvés dans un projet de santé primaire en Guinée-Bissau et au retour, on était plutôt curieux sur une expérience en milieu nordique et autochtone au Canada.
Alors oui.
Et donc c'est comme ça que s'est installée cette situation nord-sud, une partie sud qui m'a toujours habité à partir du moment qu'on voit la grande indigence, on veut y retourner, et la partie nord chez moi que j'ai connue pendant les 20-25 dernières années.
Et qui est à laquelle, cette région, le Nunavik, mais notamment, vous êtes très attaché, Danielle Perrault.
C'est faute de pouvoir partir à l'étranger. Je crois que la culture inuite dans les années 2000 était totalement fascinante. Et j'ai découvert un peuple vraiment, vraiment très particulier. Et le nord du Québec, pour avoir visité d'autres régions du Canada de sociétés autochtones semblables, est vraiment la partie qui avait gardé sa langue, qui a gardé ses habitudes, sa façon de penser, sa façon de s'exprimer, et aussi tout cet héritage du passé des pensionnats autochtones. Et pendant 20 ans avec eux, et j'y allais en fait en remplacement régulier, alors j'ai pu donc établir des liens avec des familles, et quand je revenais, évidemment, ils sont très fidèles, alors on me reconnaissait, Et donc, j'ai pu suivre l'histoire parce qu'il y a 20 ans, les Autochtones du Canada ne connaissaient pas nécessairement leur histoire. Et petit à petit, il y a eu, que ce soit leur propre gouvernement ou leur organisation ou la municipalité, a fait des rencontres pour dire, écoutez, savez-vous ce qui s'est passé? Et pouvons-nous comprendre pourquoi aujourd'hui ça se passe pas très bien? Mm-hmm. Alors, les traumas de séparation de l'enfant, puis du côté du Nunavik, ça a été des traumas associés au fait que durant toute l'année, les enfants étaient placés dans des externats, coupés des habitudes avec leurs parents, donc, et avec des grandes conséquences.
Alors, il y a au détour d'une page une phrase que j'aime beaucoup, parce que là, on sent très rapidement que vous êtes à votre place, où que vous soyez, dans tous les pays du monde où vous vous êtes déplacés, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, Haïti, le Grand Nord, l'Europe, même avec la guerre, en Géorgie, tout ça, mais moi, il y a cette phrase Vous écrivez « Sauver le monde est pas mal plus compliqué que je pensais ». Alors là, il y a plusieurs choses là-dedans. D'abord, vous pensiez quand même pas que ce serait simple.
C'est comme médecin, on rentre en médecine, on pense qu'avec nos connaissances, qu'on va pouvoir sauver le monde en entier. Là. C'est clair que c'est une utopie.
Bien sûr. Mais Daniel Perrot, est-ce que les embûches politiques et culturelles sont plus invalidantes que, par exemple, les maladies en tant que telles?
Ben oui, c'est que j'ai réalisé en cours de route, c'est que je dois soigner des conditions qui sont les conséquences de décisions politiques, qui sont les conséquences aussi de que ce soit, puis là, on traverse l'Atlantique pour se retrouver, par exemple, dans les pays d'Afrique, où des habitudes ou des croyances culturelles nous éloignent des soins des enfants qui ont, par exemple, une malaria cérébrale et pour lequel, bien sûr, on va essayer d'offrir d'abord une consultation auprès de quelqu'un qui est pas tout à fait adéquat pour soigner des conditions semblables. Alors, faire le pont entre notre, puis aussi, si on est dans un temps pour regarder de quelle façon on agit à l'étranger, de penser qu'on a toute la science et comme un blanc, on va aller sauver l'étranger, alors que ça se fait vraiment avec une compréhension et une concertation des forces locales.
Oui. Les besoins, ça c'est une note que j'ai prise dans une marge. Les besoins d'un pays à l'autre sont différents, mais la détresse, entre autres, dans le regard des enfants ou des mères dont les enfants sont malades, la détresse, c'est la même partout, hein, quelle que soit la couleur de peau. Hein.
C'est qu'il y a effectivement des besoins différents selon le niveau de développement du pays et selon aussi s'il s'agit d'une crise, d'une catastrophe, etc. Quand on se retrouve presque à nu parce qu'on a très peu de moyens d'opérer, par exemple, une fracture ouverte chez un jeune qui a souffert évidemment d'un trauma lors de l'ouragan parce qu'il n'y a pas d'orthopédiste, parce que ça coûte des sous pour payer l'orthopédiste. On est en face donc de très grandes souffrances et d'handicaps pour lesquels je ne peux rien y faire Alors, on se retrouve avec très peu de moyens dans ces moments de catastrophe-là. Et on réalise aussi que, par exemple, en Haïti, des enfants qui sont totalement dénutris, qui pèsent 3 kilos à un an, ce n'est pas à cause de, si on veut, du tremblement de terre 2 semaines auparavant qu'ils sont dans cette condition-là. Et ça nous met en face de qu'est-ce qui se passe. Et ça, c'est très... J'ai toujours trouvé ça...
Ça fait mal. Très triste.
Ça fait mal. Mais en même temps, je me suis retrouvée dans des endroits qui sont vraiment dans une économie de subsistance, c'est-à-dire que les marécages leur donnent un peu de poisson, qu'ils ont les arbres fruitiers en Papouasie. Et là, on a un équilibre à l'intérieur de grandes familles avec des rôles pour la femme, des rôles pour l'homme et un soutien incroyable de la communauté qui fait en sorte que l'homme, dans sa détresse, n'est pas seul. En Afrique de l'Ouest aussi, dans une mission en ophtalmo, là, pour c'était une équipe d'optométristes avec des ophtalmologistes. Et donc, il y avait possibilité de leur donner des lunettes pour qu'ils voient, d'opérer des cataractes d'un seul œil pour leur permettre une autonomie pour leur travail quotidien. Et le vieillard ou le vieux qui habite seul dans un petit coin du village, il va être amené par sa communauté. Alors, on a vraiment des grandes forces, des grandes leçons. Et c'est pour ça que quand on me dit, oh mon Dieu, tu vas à l'étranger, c'est triste, mais ce n'est pas que triste. Non, il y a de l'humour, il y a du support entre eux et je me trouve très privilégiée de faire un métier, une profession qui me permet d'être enrichie à chaque départ. Et voilà, je suis prête à repartir demain matin. Là.
Daniel Perrot, je voudrais qu'on écoute un autre extrait. Vous avez abordé Haïti. Vous, comme nous, comme tout le monde, on a été très ébranlé par le drame haïtien. Donc, d'une part, oui, par les problèmes de pauvreté, mais là, en plus, on dirait que le bon Dieu, s'il existe, en a rajouté une couche avec ce tremblement de terre épouvantable. Et là, vous avez tout de suite été appelé, vous avez dit, moi, je veux aller là-bas, je veux aider. On écoute un extrait de ce chapitre en Haïti.
Cette tragédie a jeté plus d'1 million de personnes à la rue. Le lendemain, en allant vers l'hôpital, plusieurs obstacles ralentissent notre véhicule. Aux débris qui jonchent la route s'ajoutent les abris improvisés par les citadins qui dorment directement dans la rue. Les gens ont peur que surviennent des répliques sismiques. Les murs à demi effondrés de leur maison ne les rassurent pas. Cette lente progression nous permet de réaliser l'ampleur de la destruction. Tous les espaces verts sont envahis par des milliers de déplacés. Tous mes sens sont saturés, les odeurs fétides, d'urine, de diesel, de poussière. La vue des corps sous les pierres, des maisons réduites en amas de ciment, de ferraille tordue, où sont ensevelies des milliers de personnes encore portées disparues, et la cacophonie d'une foule active, des klaxons, des coups de massue, des marteaux-piqueurs, des avions, des hélicoptères. Devant le cimetière municipal, une grande pancarte a été plantée. Tout au plein, nous pas capables de prendre encore. Tout est plein, on ne peut plus en prendre.
J'écoute ça, puis ce matin, en venant en voiture pour venir faire cette entrevue, cette émission-là, je pensais à... Mais en fait, j'y pensais pas. J'ai entendu par hasard une chanson de Michel Fugain que j'avais oubliée complètement, qui s'appelle « Ne m'oublie pas », et où, en fait, c'est un enfant qui est dans une rue. La ville n'est jamais citée. Ce qu'on sait, c'est que ça pourrait être Haïti ou partout ailleurs sur la planète. Et l'enfant dit à quelqu'un qui lui est venu en aide, surtout... merci pour tout ce que tu as fait, mais par pitié, ne m'oublie pas. Et là, moi, j'ai tout de suite pensé à vous. Je me suis dit, oh, je vais faire l'entrevue avec Daniel Perrot. Ça, c'est une question qu'il faut que je lui pose. Est-ce que ce livre, le fait de l'écrire et de le lire pour Vues et Voix, est-ce que Daniel Perrot, ça vous permet aussi de ne pas oublier tous ces visages-là que vous avez aidés?
Moi, je ne peux pas l'oublier, mais c'est tellement fort qu'il fallait que je le partage. Quand je reviens et que mes amis me demandent comment ça a été lors d'un repas, et au bout de 5 minutes, une interrompt en disant « passe-moi celle », « ah, il paraît que tu t'as acheté une auto », ben là, je me retrouve toujours dans un état de grande tristesse sans que je le montre. Et donc, les mots, les phrases, l'écriture, l'audio me permettent de partager et faire en sorte que c'est pas seulement moi qui oublie, mais c'est que on ne doit pas oublier, mais pour ne pas oublier, il faut encore qu'on puisse le savoir. Mmh. Alors, et donc, d'où l'importance de partager des expériences comme je les ai vécues.
Alors, on en parlait tantôt. Lorsque la culture détruit des vies, bon, évidemment, je pense tout de suite à l'excision et à ces fameuses fistules qui touchent les femmes et les petites filles. Ça, ce sont des pages. J'imagine que c'est parce que je suis femme moi-même et toutes les femmes de la Terre souffrent pour ces gamines que l'on excise à froid, je précise. Alors, je veux dire, assister à cela, on revient à l'incapacité parfois de faire les choses. Et ma prochaine question est la suivante. Est-ce que ce n'est pas l'impuissance à agir qui parfois est plus insupportable que la détresse?
C'est quand on disait « je voulais sauver le monde » et c'est pas mal plus compliqué, mais ça rejoint un petit peu votre question. Et quand on hérite comme soignant des conséquences de toutes ces habitudes culturelles ou des choix politiques, ça me met en colère. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu qu'on agisse en amont, qu'on agisse en prévention. Ben, il faudrait qu'il y ait plus de collaborateurs pour ça. Ce que j'écris dans le livre au sujet de la fistule au Mali, il reste que c'est un magnifique projet. On peut faire la différence quand on peut soutenir des projets qui permettent à des médecins locaux d'opérer chez des femmes qui sont atteintes de la fistule. Ouais. Alors, là, on fait le lien entre qu'est-ce qu'on peut, nous, parce que souvent, on a, au niveau de la télévision, au niveau des médias, des situations tellement terribles qu'on se dit, mais je peux rien y faire, puis c'est pas vrai. On a, puis plusieurs de mes amis me demandent, mais quel organisme que je peux aider, et puis je peux vous assurer que si vous regardez bien, vous allez en trouver, et ça fait une très grosse différence pour beaucoup de monde. Oui. C'est sûr qu'au niveau pression politique pour que les décisions soient bien prises, que voulez-vous faire quand la Chine et l'Iran se rallient ou que et puis qu'on peut rien faire en Turquie, tu sais, c'est alors pour ces situations, alors pour se mettre à un niveau où oui, mais moi je peux quand même aider à telle chose quand même au niveau niveau humain, là.
La fameuse petite goutte d'eau de cette histoire du petit colibri qui dépose une goutte d'eau, puis évidemment tout le monde rit de lui parce qu'il fait ça pour éteindre l'incendie, puis il dit « ma goutte d'eau, elle est importante, elle est essentielle, quoi. Être médecin de brousse, de terrain comme vous, en étant femme, ça c'est un autre défi. Je voudrais qu'on écoute un troisième extrait de votre livre « Soigner du Nord au Sud » Daniel Perrot, lu par vous et disponible au catalogue Vues et Voix.
Certaines de mes collègues doutent de mes capacités à diriger parce que je suis une femme. Oh, une femme! Mais elle va se fatiguer, s'inquiète l'un d'eux. Heureusement, on ne perd pas de temps en doute et en débat philosophique sur la capacité des femmes à supporter de lourdes responsabilités. L'arrivée de nouveaux patients nous replonge vite dans la réalité. Mais je dois faire mes preuves. Mamadi, 12 ans, et sa sœur de 2 ans sont admises à leur tour alors que leurs parents viennent tout juste de quitter le centre, guéris. La plus vieille est mal en point, mais ses tests de labo me donnent espoir de la sauver. Fièvre, diarrhée profuse, elle a besoin d'un suivi au quart de tour. J'ai accès à divers tests de laboratoire et j'ai un personnel suffisant pour faire des tournées régulières. De plus, 2 essais cliniques sont en cours parmi les patients du centre. L'un pour le Famvir, un antiviral japonais, et l'autre pour le Zimap, un médicament expérimental composé d'anticorps. Il s'agit de savoir si on peut, une fois le patient atteint par le virus, changer le cours de la maladie. Mais voilà que je me heurte encore une fois aux croyances populaires qui ont circulé durant l'épidémie. D'abord, signalons que la plupart des villageois ne sont pas familiers avec les prises de sang, faute de services de laboratoire adéquats. Dans cette partie du monde, les systèmes de santé sont peu financés par l'État et restent donc rudimentaires. Une aiguille qui rentre dans le corps, une seringue qui se remplit de sang, ça effraie. Quand cette pratique est introduite par des Blancs, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans la région, c'est aussi la valse des fake news qui s'emballe et les rumeurs vont bon train. Vous, les Blancs, vous prenez notre sang pour des expériences. Vous voulez utiliser nos organes.
Mais ça me rappelle un discours qu'on entend un petit peu ici en ce moment aussi, hein,
oui.
Daniel Perrot. Non, mais c'est terrible, oui. Mais c'est vrai. Ce qui m'amène à ça aussi, c'est que, bon, ça, c'était dans le... Vous consacrez 2 chapitres à Ebola, l'horreur d'une part et l'espoir d'autre part. Mais la question, vous l'a posée des milliers de fois, comment vous avez fait pour ne pas attraper vous-même toutes ces maladies que vous avez soignées, malaria, choléra, lèpre, et j'en passe. Et vous êtes au Québec et vous venez en aide à des centres de soins de santé et vous attrapez la COVID. Vous deviez être en Beaujolais vert, si je peux me permettre.
Ah oui, vraiment, vraiment. Là. Mais il faut dire que l'Ebola, si la personne n'a pas de symptômes, elle n'est pas contagieuse. Alors on a quand même un comportement avec ce virus-là, c'est-à-dire que le virus, il nous joue des tours avec la possibilité d'attraper la COVID, d'une façon, de quelqu'un qui ne l'a pas. Alors, j'étais dans un milieu très, 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 très à risque avec, il y avait une éclosion dans un centre pour personnes âgées et j'étais avec une équipe justement de biosécurité. Alors, à ce moment-là, tout n'est pas en place pour se protéger du virus. Alors, quand je suis dans un centre Ebola, c'est identifié. L'ennemi, on le voit, on le connaît, on sait où il est. Il y a une certaine procédure très surveillée, etc. Alors, à moins d'un accident où on se coupe, puis là, on est fait là, avec l'Ebola, mais avec la COVID, c'est quand même un ennemi qui est limeux. Là.
C'est quand même difficile.
Mais c'est clair que j'étais, ça m'a mis à terre pour 2 mois et demi. Là, j'en relève depuis peu. Là. Alors oui, j'étais en beau joie le vert. Ça, c'est clair.
Il y a quelque chose que j'ai apprécié beaucoup parce que je suis une femme de mots. C'est la joliesse de vos titres. Par exemple, Madagascar, père et mère. Alors, père comme le papa et mère comme l'océan. Il y a rire et pleurer, on en parlait tantôt. C'est pas un livre où on ne fait que pleurer et se plaindre et gémir et dire « Oh mon Dieu, comme le monde est sale ». Il y a aussi beaucoup de moments souriants, drôles. Parce que justement, vous qui aimez aller à la rencontre des êtres humains, eh bien, ils vous en apprennent beaucoup sur leur culture et entre autres avec les Inuits. leur façon d'agir est tellement différente. Et c'est un régal, hein, parce qu'il ne faut pas penser que c'est juste médical. Oui, c'est médical, mais l'anthropologue aussi ressort beaucoup dans le livre « Soigner du Nord au Sud ».
Donc, je suis contente que vous insistiez là-dessus.
Bon.
Parce que effectivement, le rire a été omniprésent partout. Que ce soit au centre de traitement d'Ebola avec le personnel, tous les matins, on chantait les gospels, là, on commençait la journée avec ça.
Ah oui, hein.
Et il y avait toujours la petite remarque, la petite blague, etc. Et donc, là, c'est omniprésent. Chez les Inuits, les Inuits vivent beaucoup au moment présent aussi.
Oui.
Et l'exemple probablement qui évoque votre question, c'est lors des festivités de Noël, il y a toujours un moment où ceux qui sont morts durant l'année, puis ça a été souvent des morts violentes, que ce soit par suicide ou accident. Et puis, évidemment, il y a des pleurs, mais tout de suite après, il y a des jeux, et puis il y a une bonne blague, ben on va rire de la bonne blague.
Ouais,
parce que pour
ça.
Tout de suite, la bonne blague, elle est là, puis on rit de la bonne blague.
Ouais.
Alors, le moment présent pour les Inuits est essentiel.
Alors, vous nous l'avez laissé entendre, et c'était ma dernière question avant qu'on se quitte. Vous allez repartir?
Oui, alors là, je refais application pour repartir à l'automne. Et d'ici là, j'aide au COVID et je travaille en clinique. Donc,
vous allez où, si c'est pas indiscret?
Ben, à vrai dire, je vais appliquer probablement pour la Croix-Rouge pour un départ de 3 à 6 mois.
Bon.
Mais il y a d'autres projets qui sont en parallèle.
Bon. Alors, je dois dire que c'est charmant de vous côtoyer, Daniel. Pour les gens qui vous, par hasard, parce que vous êtes, je ne l'ai pas dit, mais les gens vous ont peut-être revu à la télévision comme chroniqueuse, animatrice, tout ça. Et quand vous arrivez avec vos deux petites nattes là, à la Fifi Brin d'Acier, on n'imagine pas tout ce vécu qu'il y a derrière. Non, mais c'est vrai. Et c'est tout à fait charmant. Et moi, bêtement, voilà, je pensais, elle a écrit son bouquin maintenant, Fifi Brin d'Acier, elle va rester tranquille. Et ben non, Fifi Brin d'Acier repart. Alors, on va vous souhaiter d'autres bons voyages, peut-être pour nous un autre livre. Et puis, merci d'être passé au travers de l'aventure de la lecture.
Oui, alors merci de m'avoir donné l'occasion de partager tout ça. Là. C'est important.
C'est important. Non, de rien. Merci beaucoup. Au revoir, Daniel Perrault.
Voilà.
Salut. Restez là, c'est Clotilde Seille et c'est l'émission Des livres pleins les oreilles qui se poursuit tout de suite après ça. Des livres pleins les oreilles, la suite. Alors, en seconde partie, on change complètement d'univers, même si on reste bien évidemment sur le nuage que nous offre le livre audio. Je vous présente une saga signée Audiolib pour la production sonore. La saga s'appelle Les Brigades Fantômes, de l'action, du surnaturel, de la science-fiction. Bref, amateurs du genre, vous allez vous régaler. Et puis, nous allons revisiter en audio également le classique de Ken Kesey, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Parce qu'en fait, c'est le même lecteur qui a lu Les Brigades Fantômes et Vol au-dessus d'un nid de coucou. Puis j'ai trouvé sa voix, ma foi, fort intéressante et sa lecture vraiment géniale. Et enfin, eh bien, parce qu'elle m'a tenu éveillée à la lueur d'une faible lumière et aussi et surtout à la lueur d'une insomnie, on va évoquer l'insoumise Colette et quelques-uns de ses chefs-d'œuvre qui ont été enregistrés au fil des ans en français par des grandes voix comme celle d'Edwige Feuillère ou encore Anouk Grimbert, ou même on va avoir l'occasion d'entendre Colette en personne.
Qu'est-ce qui les fait sourire comme ça, ces gosses devant la caméra, comme si la guerre autour n'existait pas. Qu'est-ce qu'ils ont à nous regarder sans même avoir l'air étonné qu'on puisse être d'ailleurs et vivre en paix. Ce sourire-là, il est toi qui me vois, ne m'oublie pas. Où que tu sois, fais au moins ça pour moi, ne m'oublie pas. Je suis la vie qui résiste quand plus personne n'y croit. Ne m'oublie, ne m'oublie, ne m'oublie pas. Je suis l'espoir aux yeux tristes dans le fracas des combats. Ne m'oublie, ne m'oublie pas. Fait sourire encore ces gosses des rues toujours dehors, entre la peur et la loi du plus fort. Est-ce qu'il sourit pour la photo ou parce que pour sauver sa peau, les autres et la misère c'est déjà trop. Ce sourire là, il est toi qui me vois, ne m'oublie pas. Fais au moins ça pour moi, ne m'oublie pas. Je suis la vie qui avance, je suis l'homme de demain. Ne m'oublie, ne m'oublie, ne m'oublie pas. Je suis ce rien d'innocence dont le monde aura besoin. Ne m'oublie, ne m'oublie.
Ça, c'était un petit rappel, ne m'oublie pas, de Michel Fugain. Un petit rappel et un petit clin d'œil que Jean-Sébastien Laliberté et moi-même lançons à Daniel Perrot. Daniel Perrot, femme médecin du Nord au Sud, qui était mon invité en première partie et à qui je parlais de cette chanson-là. Je faisais référence à tous ces visages d'enfants, de femmes et d'hommes qu'elle a pu soigner du Nord au Sud sur cette planète. Et je lui demandais comment elle faisait pour ne pas les oublier. Voilà. Une saga maintenant, une saga extraordinaire que vous recommande Audiolib, et je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs parmi vous. Cette saga s'appelle Les Brigades Fantômes. On va entendre un extrait de Le Vieil Homme et la Guerre qui correspond au volume 2 de ces Brigades Fantômes qui sont signées John Scalzi. C'est un livre audio qui est lu par Philippe Spiteri, ou Spiteri, S-P-I-T-E-R-I, et vraiment ça vient de sortir chez Audiolib. Qu'est-ce qu'on nous dit à titre de résumé? En fait, ce n'est pas vraiment un résumé, c'est quasiment un extrait qui nous dit « Tu t'appelles Jared ou Jared, ta mère est une cuve et ton esprit n'est pas le tien. Tu as parlé à 60 secondes, marché à 2 minutes et pris la navette à 1h10. Ton avenir, il ne t'appartient pas. » À 2 semaines, tu intégreras le corps d'élite des forces de défense coloniale, les brigades fantômes. Au nom de l'humanité, toi qui n'es pas vraiment humain. Mais l'esprit qui n'est pas le tien grandit en toi, cet esprit qui ailleurs planifie la destruction de l'humanité. Au nom de quoi? Au nom de qui? Et toi? Que choisiras-tu, Jared? Voici donc un extrait du second tome de cette saga culte de John Scalzi, ou Scalzi, entre science-fiction militaire et space opéra débridé, nous dit-on chez Audiolib, et c'est porté par la lecture éclatante de Philippe Spiteri. C'est sorti le 31 mars dernier.
Nous prenons la présentation de l'activité cérébrale tracée par votre batterie de senseurs et l'envoyons, et vous aussi, là-dedans. Nous avons rassemblé l'information de vos schémas neuraux collectés pendant les 2 derniers jours et l'avons utilisé pour préparer votre nouveau cerveau à recevoir votre conscience. Ainsi, lorsque le transfert sera effectué, vous ne serez pas du tout dépaysé. Je vous donne la version simplifiée de la procédure, naturellement. C'est bien plus compliqué. Mais pour le moment, cela suffira. Maintenant, permettez qu'on vous connecte. Le docteur Russell s'employa à manœuvrer le bras de la crèche au-dessus de mon crâne. J'écartai la tête et il s'arrêta. « Monsieur Perry, cette fois nous n'enfonçons rien dans votre crâne. La capsule injectrice a été remplacée par un amplificateur de signal. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. »« Désolé, » dis-je en remettant ma tête en place. « Ne vous excusez pas, » dit-il en me coiffant de la capsule. « Vous réagissez mieux que la majorité des recrues. » Le gars qui vous précédait a piaillé comme un porc et il est tombé dans les pommes. Nous avons dû le transférer inconscient. Il va se réveiller jeune et vert et très, très perturbé. Croyez-moi, vous êtes de la crème.
J'aime cette voix, la voix de Philippe Spiteri, et j'ai découvert qu'il avait lu toujours pour Audiolib, me semble-t-il, oui, c'était paru en novembre 2019. Ils ont fait une version livre audio de cet énorme classique de la littérature et du cinéma, Vol au-dessus d'un nid de coucou, cette dénonciation en règle de l'enfermement psychiatrique. Cet hymne à la vie envers et contre tous, nous dit-on sur le site d'Audiolib, un monde de carton-pâte peuplé de personnages en trompe-l'œil surgit de quelque histoire de fou qui serait vraiment drôle si ces héros n'étaient pas des types en chair et en os. Ce roman de Ken Kesey qui est paru en 1962, qui n'a absolument rien perdu de sa puissance. Il aurait très bien pu être écrit avant-hier et qui nous plonge dans le chaos d'un hôpital psychiatrique où l'infirmière en chef, Ratched, règne en maître sur son service jusqu'à l'arrivée d'un certain McMurphy, criminel qui simule la folie pour échapper à la prison, cet homme rebelle et gouailleur qui est bien décidé à redistribuer les cartes et à redonner un peu de dignité et d'espoir aux malades. Au moment de l'extrait, il fait la connaissance de ce géant indien.
McMurphy m'étudie. Ça l'a pas empêché de grandir, il est rudement baraqué. Je me demande quelle taille il fait. Dans les 2 mètres, je crois. Mais il a beau être grand, il a peur de son ombre. C'est rien qu'un grand indien sourd. À le voir, je l'ai bien trouvé un peu typé. Mais c'est pas un nom indien, Bromden. De quelle tribu il vient?
Je sais pas, il était déjà là quand je suis arrivé.
Le docteur m'a dit qu'il n'est qu'à moitié indien, intervient Harding. Il est issu d'une tribu éteinte qui vivait sur les rives du fleuve Columbia, je crois. Son père en était le chef. Voilà pourquoi on lui donne ce titre. Quant au nom de Bromden, j'ai bien peur que mes connaissances en matière de tradition indienne soient trop minces.
McMurphy approche sa tête de la mienne pour me forcer à le regarder.
C'est vrai? T'es sourd? Il est sourd et muet.
Il m'observe longuement en faisant la moue. Enfin, il se redresse et me tend la main.
Et puis après, être sourd, c'est pas ce qui l'empêche de donner une poignée de main. Putain, t'es peut-être un malabar, grand chef, mais tu me serreras la main ou je le prendrai comme une insulte. C'est pas une bonne idée d'insulter le nouveau Maboul 3 étoiles de l'hôpital. » Ayant dit ça, il s'est tourné vers Harding et Billy, avec une grimace, tout en continuant de m'offrir sa main, large comme une assiette.
Et on a tous en mémoire la face, le visage de Jack Nicholson dans le rôle de Mac Murphy dans « Vol au-dessus d'un nid de coucou ». Musique, et puis juste après, Colette.
Et dans le sable, allume le brasier, comme une vague trop grosse, je m'en viens me briser. Je veux ce que je veux. Oh, tu veux ce que tu veux, la guerre des baisers. Le coton de tes draps, quand tu les ouvres et que tout est facile. Lucky, lucky, d'en arriver là, comme un bateau qui arrive au Brésil. Escalier, mon cœur veut exploser. Imagine-toi quand tu montes sur moi.
Ouais, Monsieur Richard Desjardins qui nous amène toujours dans des univers dans lesquels on aime se baigner et presque se noyer. Bon, allez, j'émerge à nouveau pour vous parler de Colette. Colette l'insoumise, c'est un documentaire sur lequel je suis tombée par une nuit d'insomnie. J'ai pris mon iPad et puis je suis tombée là-dessus. Le portrait d'une femme libre et amoureuse. Le documentaire est réalisé par Cécile Dangean, donc un documentaire sur cette romancière énorme que fut Colette, mais qui fut aussi actrice, scénariste et danseuse nue, nous rappelle Émile Grangeret dans un article que j'ai trouvé dans lemonde.fr. Et c'est ça, c'est vraiment un documentaire rare. avec beaucoup de musique, il y a un rythme narratif très, très, très enlevant. Et alors surtout, il y a des illustrations et des photos qui ont été mises en mouvement, des photos de l'époque, et c'est vraiment sensationnel. Rappelons que Colette est née en 1873 à Saint-Sauveur-en-Puisaye, ça c'est dans l'Yonne. Colette qui est avant tout la fille de sa mère, Sidonie, que tout le monde appelait Sido, une mère bourgeoise, une mère libre, une mère très aimante, trop aimante, même dévorante, qui faisait dire d'ailleurs à Colette que le personnage principal de sa vie, c'était Sido. Et Colette a 11 ans quand sa vie bascule. Son père, nous rappelle là Émilie Grangeret, et son père est un mauvais gestionnaire qui doit brader la maison de Saint-Sauveur. Et c'est un traumatisme fondateur pour celle qui aimait tant être dehors, au contact du vivant, et qui explique sans doute sa volonté farouche d'être totalement indépendante financièrement. C'est ce qui explique aussi peut-être son insatiable besoin de reconnaissance. Le documentaire est fait chronologiquement. On suit Colette, ou disons, comme le dit Madame Grangeret, contente de le faire, tant sa vie a été agitée. Il y a rapidement son mariage avec Willy, la foudroyante découverte du plaisir, les lendemains qui déchantent aussi. Elle a été trompée, elle a été malheureuse, elle est tombée gravement malade, mais Colette a une espèce d'aptitude au bonheur qui est hors du commun, et avec son mari Willy, elle forme un couple certes hors norme. Elle va même devenir l'amante de ses maîtresses, faut quand même le faire, mais tout Paris s'arrache ses livres. On va écouter un extrait de Lettre à Colette de Sido, donc de sa mère à Colette. C'est lu par Edwige Feuillère aux éditions des Femmes, reparution en 2017.
Minet chérie, quelques mots seulement, mon poulet blanc, pour te donner des nouvelles de nos santé, qui sont à peu près bien. Je vais donc attendre que tu me dises à quel moment je puisse aller vous voir. Je n'ai pas encore la lettre que doit m'écrire Willy, mais vos théories sur vos relations conjugales bouleversent les miennes. Quoique j'ai toujours trouvé que coucher avec son mari, ce n'était ni propre, ni convenable, mais mettre des rues et des murs entre son mari et soi est tout de même beaucoup. Cependant, ma belle-sœur Caro, que j'admirais fort, payait les ou la maîtresse de son mari, mon frère, qui était bien beau et bien amoureux. Mais quoi ? Tendresse, mon toutou chéri.
Lettre de Sido à Colette. Lu par l'inoubliable Edwige Feuillère. Mon Dieu, que c'était bon de réentendre sa voix, celle-ci. Les confessions polissantes, mais oui, il y en a eu beaucoup. Il fallait bien se renflouer, surtout après le divorce d'avec Willy. D'ailleurs, c'est sous le nom de Willy qu'elle a écrit notamment plusieurs Claudine, dont Claudine à l'école, qui a fait un véritable tabac personnel. N'en revenait. Et lorsque son histoire d'amour avec Willy, son mari, s'achève, eh bien, elle va écrire « Claudine s'en va ». Vraiment, elle se base beaucoup, elle trouve beaucoup les lignes fondamentales de ce « Claudine s'en va » dans sa vie de tous les jours, alors qu'ils finissent par se séparer, Willy et elle. Voici un extrait de « Claudine s'en va », c'est lu par Odette Joyeux. Incroyable. Reparution en 2015 chez Frémaux et Associés.
Nous avons grandi très sages, sans baisers et sans gestes vilains. Oh, ce n'est pas ma faute. J'aurais dit oui, même en me taisant. Souvent, près de lui, au jour finissant, j'ai trouvé trop lourde l'odeur des jasmins et j'ai respiré péniblement, la poitrine étreinte. Comme les mots me manquaient pour avouer à Alain, le jasmin, le soir, le duvet de ma peau que caressent mes lèvres, c'est vous. Alors je fermais ma bouche et j'abaissais mes cils sur mes yeux trop clairs, dans une attitude si habituelle qu'il ne s'est jamais douté de rien, jamais. Il est aussi honnête qu'il est beau.
On a même entendu le bruit de page. Et moi, je trouve ça tout à fait charmant. Après tout, ne lisons-nous pas des livres, mes amis. Alors, Colette, eh bien, Colette, écoutez, il faut penser qu'à l'époque, ces Confessions polissonnes, il y a 40 000 exemplaires qui ont été vendus en France. C'était absolument énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe après le départ de Willy? Eh bien, elle se console dans tous les bras, Colette, et notamment dans les bras de Missy. Homme-femme ou femme-homme, difficile à dire. Une femme, ça c'est certain, mais elle qui aime tant le parfum de scandale, eh bien, elle n'hésite pas à se montrer avec cette Missy partout, dans des théâtres, des bars et des salles de spectacle. Voici quelques lettres de Colette à Missy. C'est lu par Anouk Grimbert, cette fois-ci, à la Bibliothèque des Voix.
Grand Hôtel de Noailles et Métropole. Marseille, début juin 1909. Mon amour chéri, j'ai enfin reçu une lettre de vous, la première. Je suis bien contente. Elle est bougon, elle est gentille, et je la trouve délicieuse, puisque vous dites que votre odieux enfant vous manque. Ma chérie, cela suffit pour me combler de joie, et j'en suis devenue rouge, toute seule, de plaisir, d'une sorte d'orgueil amoureux. Que ce mot ne vous choque pas, mon pudique petit Missy. Il n'y a vraiment que le mot « amour » qui puisse servir pour dire la complète, la complexe et exclusive tendresse que j'ai pour vous.
Toute ma vie, a écrit Colette, toute ma vie j'ai cru à la force du souhait, tout ce qu'on écrit finit par devenir vrai. Colette qui va même jusqu'à vivre un amour incroyable avec son beau-fils, âgé de 16 ans, à l'époque elle a plus de 40 ans, Colette. Elle est donc amoureuse, oui encore et toujours. Elle va connaître un dernier amour avec Maurice qui est un courtier en pierres précieuses, il a 10 ans de moins qu'elle et d'ailleurs elle va le marier. En 1945, elle est élue à l'Académie Goncourt, dont elle devient la présidente 4 ans plus tard, et elle meurt en 1954 chez elle, dans son appartement du Palais Royal à Paris. Elle est enterrée au cimetière du Père-Lachaise. Elle est la première femme à qui la France offre des funérailles nationales, alors que l'Église lui refuse toute cérémonie pour cause de conduites inconvenantes. Elle termine son article, Madame Grangeret, Émilie, dans lemonde.fr, en nous parlant de la liberté de cette femme, trop sans doute. C'est peut-être pour ça que les critiques ont été très assassines et les remarques misogynes, notamment quand Colette a publié « Chérie », l'amour d'une femme mûre pour un jeune homme. Et Colette qui va donc, je vous le disais, qui a vécu ce type d'amour avec son beau-fils qui n'était âgé à ce moment-là que de 16 ans. Alors elle nous laisse une œuvre prolifique et ce documentaire-là, je ne saurais que trop vous le recommander, Colette l'insoumise. Pour finir ce segment et l'émission d'ailleurs, je voudrais vous présenter un extrait d'une des nouvelles de la maison de Claudine qu'on retrouve au début du livre audio « La maison de Claudine » qui est lu par Annie Dupéret. Mais là, c'est la voix de Colette que vous allez entendre nous parler de son enfance, de sa mère et du goût qu'elle avait, cette femme-là, pour les animaux. D'ailleurs, génétiquement, Colette était exactement pareille.
À 16 ans, revenant en puiser après une quinzaine de Paris, je retrouvais, après avoir connu ses cubes sans jardin, ses logis sans fleurs, où nul chat ne miaule derrière la porte de la salle à manger, où on n'écrase pas devant la cheminée un coin de chien traînant comme un tapis, je les retrouvais. Ensemble, je saluais inséparables ma mère, le jardin et la ronde des bêtes. L'heure de mon tour était justement celle de l'arrosage. Je chéris encore cette sixième heure du soir. L'arrosoir vert qui mouille la robe de satinette bleue, la vigoureuse odeur de l'humus, la lumière déclinante qui s'attachait rose à la plage blanche d'un livre oublié, aux blanches corolles du tabac blanc, aux taches blanches de la chatte dans une corbeille. Nonoche, la chatte aux trois couleurs, avait enfanté l'avant-veille. Et Bijou, sa fille, la nuit d'après. Et quant à Musette, la chienne havanaise, elle était intarissable en bâtard.
Elle avait un petit roulement de AR, hein, vous avez remarqué, Colette, dont je vous parlais dans cette chronique à l'émission des livres plein les oreilles. Très curieusement, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup plus de livres audio en anglais de Colette que de livres audio en français, allez y comprendre quelque chose. Donc là, vous avez entendu des extraits de Lettre à Colette de Sido, des extraits de Claudine s'en va, de Lettre de Colette à Missy et de Ma mère et les bêtes, extraits, ou du moins en exergue, en introduction, au texte de La maison de Claudine. Voilà, mes amis, c'est ainsi que s'achève cette émission des Livres pleins les oreilles. Et pour finir, je ne saurais que trop vous recommander la lecture, ou plutôt même l'écoute du livre audio « Soigné du Nord au Sud », écrit et lu par la docteure Danielle Perrault, qui est venue répondre à mes questions dans la première partie de cette émission des Livres pleins les oreilles, qui, faut-il vous le rappeler, est diffusée non seulement à la radio de Canalem, quand bon vous semblera à partir d'aujourd'hui si vous allez en ligne. Vous pouvez également retrouver cette émission-là en balado, il suffit d'écrire le nom, et puis dans votre moteur de recherche. Et puis encore, vous pouvez nous écouter, c'est repris par CKVL, que je remercie d'ailleurs de bien vouloir le faire. Quitte à être dans les merci, bien merci aussi à Jean-Sébastien Laliberté, et puis à vous d'être là. C'était Clotilde Seille qui vous souhaite une très belle semaine et qui vous dit à la semaine prochaine. Thank you.